Hier, la salle Bourget du Musée des beaux-arts de Montréal a recommencé à accueillir le public en présence, juste à temps pour la Semaine Sainte. Et les idées heureuses avec l'ensemble Scholastica présentent vendredi saint, le traditionnel concert de la Passion. J'ai le plaisir d'en parler avec Geneviève Soly, qui est très, très impliquée dans le projet, qui est conférencière également. Bonjour, Madame Soly.
Oui, bonjour Hélène, bonjour Madame Denis.
Bien, vous pouvez m'appeler Hélène et je vais vous appeler Geneviève, ça vous va?
C'est gentil, tout à fait, avec plaisir.
Alors Geneviève, j'ai lu que la représentation musicale que vous allez nous proposer consiste en une reconstitution historique d'une messe du Samedi Saint. Alors de quoi il va s'agir exactement? Quelle est la proposition?
Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire entendre au public de recréer l'univers sonore de Ville-Marie, c'est le nom que l'on donnait à Montréal à sa fondation, au 18e siècle, en allant puiser le répertoire dans les archives des Sœurs Grises, qui ont été fondées par Marguerite Diouville, et on voulait en même temps souligner le 250e anniversaire de sa mort. C'est la première fondatrice canadienne qui a été canonisée, et c'est une richesse que j'ai trouvée dans leurs archives, à laquelle je ne m'attendais pas du tout.
Ah ouais.
Donc, on a décidé de reconstruire, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'histoire, aux idées heureuses, et au lieu de présenter des pièces les unes après les autres sans sens, ben, on les a reconstituées, on a pris des pièces de plein chant, le plein chant étant ce qu'on appelle plus traditionnellement le grégorien, et on a recréé un office du Samedi Saint avec la plus d'exactitude historique possible, selon les rituels que l'on a retrouvés aussi. Donc on a fait beaucoup de recherches en bibliothèque pour monter ce programme, qui n'est pas un programme d'œuvres musicales traditionnelles que l'on entend d'habitude quand on va s'asseoir à un concert, mais il y aura vraiment, avec l'ensemble Scholastica, qui est un ensemble de femmes qui est spécialisé justement dans la musique plus ancienne encore que la musique qu'on va reproduire. Nous, on reproduit le 18e siècle, le siècle de Marguerite Diouville, mais elles font de la musique plus ancienne, mais elles sont habituées de chanter le plein chant. Alors, il y a peu de spécialistes ici à Montréal et même au Québec qui font le plein chant. Donc, on a une procession au début qui souligne le chemin de la croix, où on chante des cantiques québécois du début du 20e siècle. Mais ce qui m'a vraiment fascinée dans ma recherche, c'est que la musique du grand siècle de Louis XIV, donc du 17e siècle français, a perduré en Nouvelle-France, puis sous le régime anglais, puis au 19e, puis au 20e siècle, et on retrouve de la musique baroque française dans les petits livres de chant des écoles et des paroisses jusqu'en 1926. Alors, on va faire ça au début. Après, on reconstruit la messe. On va voir deux orgues sur scène, grâce à notre collaboration qui date d'il y a plus de 10 ans pour ces concerts de la Passion. Nous produisons ces concerts avec la salle Bourget. Alors, on aura les deux orgues de la collection de la salle Bourget, le plus grand orgue sur lequel je vais jouer du répertoire qui a été apporté en Nouvelle-France, à Ville-Marie, par un clerc sulpicien du nom de Jean Girard, qui était une connaissance intime de Marguerite, ben intime, il ne faut pas que j'aille trop loin, de Marguerite Diouville, c'est-à-dire qu'ils se côtoyaient presque quotidiennement. Et lui, il a apporté de la musique d'orgue, dont le plus important manuscrit au monde de musique d'orgue française du XVIIe siècle, qui a été joué à la paroisse Notre-Dame. À l'époque, ce n'était pas une basilique, évidemment, mais c'était sur la place d'Armes, là où est notre basilique Notre-Dame. Elle n'était pas exactement au même endroit à sa fondation. Donc lui, il a apporté cette musique-là d'orgue. Et on a aussi un petit orgue donc sur scène pour recréer. On a un petit orgue qui est assez similaire à l'orgue qu'il y avait à l'église Notre-Dame et que Jean Girard jouait. Donc, on va intercaler des versets d'orgue du livre d'orgue de Montréal, cet extraordinaire manuscrit qui a été découvert par Élisabeth Gallin-Morin, une musicologue québécoise et française qui l'a découvert dans les années 70. Donc, les musiciens connaissent en tout cas le nom, mais ce qu'on a compris au fil du temps, c'est que cette musique, c'est vraiment de la musique à 100% liturgique. Ce n'est pas du répertoire de concert, je le répète. C'est pour ça qu'on a voulu l'intercaler avec le grégorien, comme cela se faisait à l'époque. Mais par contre, c'est de la musique magnifique. C'est un son très particulier, ceux qui connaissent les grandes œuvres vocales de Versailles de la fin du XVIIe siècle, du siècle de Louis XIV, vont reconnaître ce langage musical exceptionnel dans cette musique d'orgue. Et à travers ça, ben, y a tout l'ordinaire de la messe, donc le Kyrie, le Sanctus, l'Agnus Dei, qui est chanté en plein chant. On fait aussi à la fin un grand Magnificat. Et là, on a eu une très, très grande surprise. Et en fait, c'est une découverte musicologique qui a une certaine importance pour les gens qui sont spécialisés dans ce répertoire. J'ai trouvé dans les archives des Sœurs Grises, qui, je le répète, ont une collection, ben, j'ai fait une conférence d'une heure et demie sur le sujet, ont une collection de livres exceptionnels.
Ah,
vraiment
oui.
À pleurer. Là. Ah, c'est d'une beauté. Elles ne peuvent pas savoir. En fait, personne n'a étudié ces manuscrits auparavant. Mais donc, je ne peux pas rentrer dans cette histoire parce que d'abord, je m'excite trop, puis ensuite, ça dure trop de temps.
Mais vous animez, Geneviève, vous animez une conférence sur le web en complément du concert en lien avec ces découvertes émouvantes-là?
Oui, absolument. En fait, ce que j'ai fait dans cette conférence, c'est pas vraiment une animation, c'est carrément, je prononce une conférence, mais on est allé aux archives, on a filmé tous les documents. En fait, il y a 6 livres dont on a extrait la musique du concert de la Passion, là, qu'on va présenter au public, mais je les ai présentés un par un, je les ai montrés, j'ai essayé de les expliquer, j'ai fait ça comme j'ai pu. C'est une conférence qui mêle des éléments très musicologiques à des éléments très de vulgarisation, là, que tout le monde peut comprendre. C'est un peu bimodal, je dirais. Je ne savais pas trop comment l'articuler, cette conférence, mais ça me tenait à cœur de au moins de montrer aux gens qui sont intéressés par cette musique qu'est-ce qui dort dans nos archives patrimoniales.
Oui.
Surtout qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de patrimoine hein, récemment, puis qu'on sait qu'il y a des archivistes qui ont été renvoyés chez les Sulpiciens, puis qu'on parle beaucoup de ce sujet d'actualité, en fait. C'est pour ça que je suis très contente de pouvoir en parler publiquement parce que c'est pas juste quelque chose là qui mérite une étude, c'est quelque chose qui mérite d'être dévoilé. Je voudrais que les gens sachent là, qu'on avait une activité musicale intense et d'une qualité remarquable. Et moi, j'ai appris plein d'affaires qui m'ont fascinée, incluant le fait que les religieuses... moi, j'ai jamais associé la congrégation des Sœurs Grises. Leur vrai nom, là, ce sont les Sœurs de la Charité de l'Hôpital Général de Montréal. Ça, c'est le nom officiel. Mais dites Sœurs Grises, et même Marguerite Diouville voulait qu'on les appelle les Sœurs Grises, donc c'est tout à fait correct. Mais je ne savais pas que les Sœurs Grises avaient eu un lien aussi étroit avec la musique. Et la musique que j'ai trouvée prouve que malgré ce qu'on lit dans leur constitution, qui ne nous laisserait absolument pas présager, qu'elles avaient non seulement un goût particulier pour la musique, mais forcément un talent.
Ah oui.
Les volumes sont annotés, la musique, elle est dans un style avec des ornements, de l'inégalité, tout ce qui faisait le langage français de l'époque. Il y a des parodies spirituelles avec la musique de Couperin et de Rameau. Écoutez, c'est extraordinaire, c'est vraiment tout un monde là.
C'est riche.
Pour nous.
Un vrai coffre à trésors. Est-ce que cette conférence que vous prononcez est accessible ou il faut absolument... comment ça fonctionne si on veut vous entendre?
Alors, c'est un billet, ça coûte 10 $, comme un billet de concert. Donc, sur le site des Idées Heureuses, il y a forcément ce qu'il faut là pour acheter le billet et pour le concert qui redirige vers la billetterie du Musée des Beaux-Arts, puisque notre concert a lieu à l'ESL Bourgie. Et certainement, excusez-moi, je ne me suis pas renseignée, mais forcément, il y a un lien pour la conférence. En tout cas, sur notre infolette, les deux boutons pour acheter les billets sont côte à côte. Donc, je suis sûre que c'est la même chose. À côté du concert, il y a certainement un lien qui dit achat pour la conférence.
Et
c'est sur le web. Voilà.
Donc, ce concert que vous allez présenter en compagnie de l'ensemble Scholastica, c'est vendredi en après-midi, mais si les gens ne peuvent pas se déplacer, ça va être possible de le regarder, d'assister à ce concert dans son salon?
Oui, en différé. Donc, d'abord, on peut le capter en direct, mais il va être disponible jusqu'au lundi de Pâques.
OK, donc il est en salle, en direct, en web diffusion, et ensuite, il y a une captation là, qui va être possible de regarder jusqu'au lundi de Pâques, 5 avril, jusqu'à minuit.
Exactement. Et la conférence de même. Ben, la conférence, évidemment, n'est pas disponible en direct parce que je la prononce pas pendant le concert. Elle est déjà enregistrée.
Parfait. Et est-ce que c'est la première fois que les Idées Heureuses collaborent avec l'ensemble Scholastica?
Non, ça fait plusieurs années, ça fait au moins 5 ans, parce que je crois que c'est la 5e recherche que je fais dans les archives conventuelles de la Nouvelle-France. Il ne me reste que les religieuses de l'Hôtel Dieu à Montréal. Jeanne Mance, donc, a fondé l'Hôtel Dieu. Là, je n'ai pas étudié ces archives-là, mais je suis allée chez les Ursulines à Québec, chez les Augustines à Québec, le manuscrit d'Odanac, qui est un manuscrit du fort d'Odanac, la mission là près de Nicolet, des Abénakis, où il y a un livre de musique à pleurer, là aussi, je peux pas rentrer là-dedans. Et puis les Sœurs Grises, et puis là, eh bien, il me reste, voilà, la dernière, ça sera pour l'année prochaine, l'Hôtel Dieu.
Alors, est-ce que...
Alors, à chaque fois...
Oui, non, continuez.
Donc, à chaque fois, c'est avec Scholastica, je me suis associée à Rebecca Bain, qui est la directrice de l'ensemble, pour faire la partie plein chant et la partie liturgique que je connaissais beaucoup moins. Évidemment, j'ai beaucoup appris avec elle, et puis maintenant, je comprends comment est structuré un office religieux, qu'est-ce que c'est qu'une antienne, qu'est-ce que c'est que l'ordinaire, le propre de la messe, et c'est d'une complexité, mais là, maintenant, j'ai compris un peu comment ça marchait, mais c'est grâce à elle que je peux reproduire ces concerts liturgiques. C'est pour ça, et j'apprécie infiniment le travail que vous avez fait en amont, parce que c'est très important pour moi de dire que c'est une représentation musicale et non pas, c'est pas un concert traditionnel. Bien sûr, ça reste un concert parce que c'est dans un lieu de concert, puis les gens parleront pas, puis ils auront leur programme. Mais ce sont des œuvres, il y en a certaines qui durent 20 secondes. Vous savez, quand on va à un concert, on n'écoute pas une œuvre de 20 secondes, là. Mais là, c'est pour ça que j'ai dû réorganiser les pièces dans un cadre liturgique précis et je me suis fixé le samedi saint parce qu'on avait beaucoup d'informations. Ici, l'orgue joue seul. Ici, le chœur commence, l'orgue lui répond. Alors, on a tout mis ça en pratique. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une représentation musicale historique d'une messe que Marguerite Bourgeois aurait pu entendre complètement, là. Toute la musique vient de chez elle, donc des archives, et de chez Jean Girard, le clerc sulpicien, les sulpiciens étant le presbytère de l'église Notre-Dame maintenant, là, cet extraordinaire mur de pierre quand vous regardez la basilique à droite, c'est là les sulpiciens, c'est eux qui appartenaient à l'île de Montréal, hein. Alors c'est très fort aussi historiquement ce concert parce que c'est un patrimoine et géographique et historique et musical là, qu'on essaie de faire revivre.
Et est-ce que vous allez incarner cette époque-là en musique évidemment, là, mais costumée ou
oui,
pas du tout?
Écoutez, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas fait des habits religieuses, mais on va tout être en noir et moi j'aurai un col blanc pour représenter la révérende mère, la mère supérieure, pas Sainte Marguerite, là je n'oserai jamais, mais oui évidemment, il n'y aura pas de bijoux, il n'y aura pas de flafla, il n'y aura pas de décolleté, puis tu sais, on va être en robe, on ne se rend pas en pantalon, c'est sûr qu'on veut garder une intériorité qui est conforme, mais ce n'est pas un costume historique du tout, là. C'est juste neutre.
Voilà. Et il y aura
puis
combien
on n'aura
de...
pas de croix.
Il n'y a pas de croix.
Sur la poitrine, il n'y aura rien.
Est-ce que le programme s'adresse spécialement aux amateurs de musique sacrée ou pas nécessairement?
Savez-vous quoi? À tout le monde qui a besoin d'un moment de répit dans sa vie trépidante. Ce concert de la passion, là, moi, je l'ai instauré. En 2005, j'ai essayé de faire un concert le vendredi saint à 5h, à 3h, pardon, à 15h. Parce que quand j'étais petite, je suis née en 1957, et quand j'étais jeune, mes parents étaient parfaitement athées, on n'allait pas à l'église, on était les seuls à l'école, là, ma sœur et moi, à pas être des pratiquantes, croyantes. Mais j'étais toujours impressionnée le vendredi saint à 3h que le Christ était mort, cloué sur la croix. Évidemment, on savait ça.
C'est vrai que ça frappe l'imaginaire quand on est enfant.
Écoute, vraiment, j'étais toujours saisie et je me souviens que le vendredi saint à 3h, je ne parlais pas. Je me disais, là, le Christ est mort. Là.
Ah oui.
Puis oui, ça me frappait beaucoup. Puis, c'est très théâtral. Hein. Et j'ai voulu recréer ce moment-là parce que, justement, on n'est plus pratiquant, on n'est plus croyant, on perd nos traditions. Puis je me disais, ça, c'est quand même une tradition qui, même pour des gens comme moi, tu sais, mes parents, ils étaient amis avec des gens du refus global. Nous, on n'était pas là-dedans du tout. Mais je le savais que c'est de là qu'on venait. Ma grand-mère, elle a eu 16 enfants. Elle crucifie au-dessus de la porte de toutes mes tantes dans la cuisine. Tu sais, je veux dire, on le sait. Donc, j'ai voulu reproduire un moment où, quand même, on soulignait qu'il y avait quelque chose, là, le vendredi saint. On est dans la semaine sainte, de toute façon, comme vous l'avez très exactement dit en introduction. Puis, ça a marché. J'étais étonnée, mais la salle était pleine, puis on n'avait jamais fait ça. Alors, on a gardé cette tradition. Là, c'est notre 13e concert de la Passion. On ne l'a pas fait tous les ans, puis on n'a jamais fait le même concert, mais j'ai toujours fait de la musique, parce que c'est d'une richesse dans l'histoire de la musique. Depuis le Moyen-Âge, les compositeurs, ils ont deux périodes très riches pour la musique, pour la composition musicale, Noël et la semaine avant Pâques. Pas Pâques. Bon, bien sûr, le jour de Pâques, il y a des cantates. Mais c'est la Semaine Sainte. Alors, avec les Lamentations de Jérémie, avec ses textes très douloureux, la musique répond. Mais, en fait, quelqu'un qui ne connaît rien à la religion et rien à la musique peut s'asseoir là. On va chanter des cantiques au début. Il va y avoir le plein chant, il va y avoir des pièces d'orgue, il va y avoir des solos, des petits motets pour voix de soprano avec Angèle Trudeau. Il va y avoir les deux orgues qui sont magnifiques à voir visuellement. Tout ça est de grande tenue, même si on n'a pas les liens historiques et religieux. Alors, c'est vraiment pour tout le monde et je vais faire deux courtes présentations. Je vais garder le caractère intime, mais au micro. Et donc, je vais repositionner justement ce que je viens de vous dire un peu plus longuement. Là, je vais.
Bien, Geneviève Sully, vous nous avez convaincus.
Ah bon?
Oui, oui, vous êtes passionnée et passionnante à entendre. C'est tout pour notre entrevue. Si les gens sont intéressés à avoir des billets, on peut aller sur lepointdevente.com et le concert a lieu le vendredi saint 2 avril, donc à 15h en direct et en présentiel et aussi en web diffusion avec les idées heureuses et. L'ensemble Scholastica, donc c'est à la salle Bourgie, la très belle salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ben, joyeuse Pâques et bon concert!
Merci infiniment, Hélène.
Merci, Geneviève.
Au revoir.
Au revoir.